23. Je ferai un très très court résumé de la semaine dernière pour pouvoir relier au message d'aujourd'hui. Mais sinon, sachez que de toute façon, les messages sont tous sur le site internet. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison, c'est-à-dire la présence de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Et on peut dire ensemble Amen à ce qui vient d'être écrit ici par le Saint-Esprit, par le roi David. La semaine dernière, nous avons abordé ce point fondamental. La table, tu dresses devant moi une table. La table est en réalité le premier chemin de restauration, peu importe ce dont nous avons besoin, peu importe les blessures ou les souffrances de nos cœurs. David, ce qui est un peu fou dans cette histoire, c'est que l'homme qui, au moment où il écrit, manque humainement, matériellement, humainement, manque de tout, c'est que cet homme dise « Je ne manquerai de rien ». Parce que David est profondément conscient que même s'il y a des chemins difficiles, il sait qu'un brebis, pardon, un berger, le bon berger, n'abandonne jamais sa brebis. C'est ce qu'on a vu ensemble. Il sait aussi que la nature du berger, c'est de pourvoir. Mais il sait aussi que dans la multitude de ses besoins, parce que nos besoins sont divers et variés, frères et sœurs, mais dans la multitude des besoins, David est conscient que Dieu veut premièrement pourvoir aux besoins de l'âme, des besoins spirituels, les besoins d'une âme qui a été retournée, une âme qui a été cassée, qui a besoin d'être réparée, une âme qui s'est même par moments totalement enfoncée ou égarée dans ses pensées, ses blessures et aussi dans ses propres péchés. Et David, dans tout cela, ce qui m'intéresse chez lui, c'est que David est un homme qui reste toujours parfaitement lucide sur ses véritables besoins. Qu'est-ce qui est réellement urgent et qu'est-ce qui est réellement important pour mon cœur, pour ma vie? Et c'est pour ça qu'il va tout de suite en priorité parler de ce repos. Il me fait reposer, reposer, repos. Les verts pâturages nous ont parlé de la nourriture de notre âme, les maigrailles succulents. Les eaux nous font penser, bien sûr, à un cœur qui est desséché, qui a besoin d'être à nouveau irrigué par l'eau de l'esprit, par l'eau de la parole. Et puis ces eaux paisibles, on sait que le premier besoin d'un cœur, lorsqu'il a été choqué, c'est de retrouver la paix divine, la paix surnaturelle, celle de Christ, celle qui garde mon cœur et mes pensées. Une âme bien nourrie, une âme bien désaltérée par la présence de bergers, une âme qui trouve la guérison, la consolation, qui va trouver le calme, la force nécessaire. C'est merveilleux. Mais tout ça, ça ne tombera jamais tout cuit du ciel. Le Seigneur me dit, en face de tes adversaires, j'ai dressé une table. Et la vraie question, c'est pas demain je vais faire quoi, demain je vais faire comment, ça va se passer quoi. Non, la vraie question c'est, pardon, hein, à quel moment tu vas vraiment te mettre à table avec Dieu? En face de tes adversaires, j'ai mis une table. Parce que à cette table, ce qui est très bien avec la table, c'est qu'au moment où moi je voudrais foncer, il y a une table devant moi. C'est une protection. Le Seigneur me dit, non, non, ne fonce pas. Ne fonce pas tête baissée. Tu es une brebis. Fais attention qu'il n'y ait pas des cornes qui te poussent. Fais bien attention de ne pas te transformer en bouquetin. Tu es une brebis. Tu n'es pas un bouquetin. J'ai mis une table devant toi. Assieds-toi. Calme-toi. Et puis à table avec moi, ce que tu vois, ce ne sont pas tes ennemis. Ce que tu vois, c'est ton berger qui est à table avec toi, Et là, le Seigneur, il prend soin, il te nourrit, et tes yeux se portent sur lui, et non pas. Donc, c'est une pédagogie extraordinaire du Seigneur de m'amener à le considérer lui, et non plus les ennemis qui sont derrière, puis aussi de me protéger de moi-même, parce qu'il y a des moments, et j'ai envie de foncer, et c'est surtout pas le moment de foncer, c'est le moment de s'asseoir et d'être en communion avec le bon berger. C'est pour ça que David dit, tu dresses devant moi une table, parce que le sens premier de la table, c'est la communion. Je sais, je le redis, le plus gros combat de la vie chrétienne, c'est de savoir ne rien faire, de prendre notre âme, de la mettre à table avec Dieu. Mon âme qui a envie de s'enfuir, mon âme qui veut surtout être un peu comme anesthésié, donnez-moi des tas de choses, donnez-moi des activités, j'ai envie de m'enfuir, j'ai envie d'aller à droite, à gauche. Si je prenais les ailes de l'aurore et que j'aille aux extrémités de la terre, dit le psaume 139, de toute façon, Seigneur, tu y serais et tu m'attendrais là de toute façon. Et en réalité, mon âme veut une multitude de choses pour l'accaparer, pour l'aider à oublier. Et le Seigneur me dit, non, ça ne réglera rien. Ton activisme, ton agitation ne régleront rien. Il faut que tu te poses à table avec moi. Et là, tu vas vraiment trouver de véritables solutions. Et on avait terminé en disant cela, bien-aimés, ne laissez jamais votre âme prendre la direction des opérations. Ne laissez jamais votre âme, peu importe ses blessures ou ses besoins ou ses souffrances, ne laissez jamais votre âme l'initiative de décider. Mon véritable besoin, mon premier, pour ne pas dire même mon seul besoin, c'est ma communion avec mon berger, c'est ma relation, ma communion, mon intimité avec lui. Parce que tout va dépendre dans ton avenir de ta relation aujourd'hui avec ton berger. Amen. Voilà pourquoi il y a une table. Aujourd'hui, on va parler encore un peu de la table et on va parler des sentiers de la justice parce que vous allez voir, la pensée qui est développée ici est liée et vous allez voir que c'est la même chose. Les sentiers de la justice. Une fois que l'on est restauré, une fois qu'on est remis sur pied, une fois que l'on a été nourri, désaltéré, que nos plaies sont pansées, que ça va mieux, merci Seigneur, c'est très bien. Ensuite, je sais que je vais pouvoir à nouveau marcher. Mais marcher pour aller où ? Je ne vais pas marcher n'importe où. Je ne vais pas marcher n'importe comment. Si Dieu m'a restauré, ce n'est pas pour que ça parte dans tous les sens. Donc le Seigneur me montre clairement, ensuite c'est ce que dit David, il va me conduire, il me conduit dans les sentiers de la justice. La marche, bien-aimée, notre marche, quand nous mettons nos pas dans l'empreinte des pas de notre maître, quand nous marchons, quand l'apôtre Jean, par exemple, dit « marcher comme lui-même a marché », quand l'apôtre Paul dit, par exemple, « marcher par la foi et non pas par la vue », on sait très bien que la marche désigne notre façon d'être. La marche, c'est une image dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, pour désigner notre façon de nous comporter. La marche désigne notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de nous comporter. Nous marchons comme Jésus, c'est-à-dire nous apprenons quotidiennement, jour après jour, dans les crises, dans les tensions, dans les problèmes, dans les difficultés, quand ça va, quand ça ne va pas, dans la pression, nous apprenons à nous comporter, à réagir comme lui. Nous marchons comme il a marché, c'est-à-dire nous vivons comme il vit. Amen. Et c'est l'idée que contient en réalité ce mot justice. Et c'est très important de bien comprendre ce qu'est la justice dans la pensée biblique. La justice, c'est pas vous, parents, par exemple, de donner, parce que vous avez donné 10 euros à votre fils, il faut donner 10 euros à votre fille. Parce que si vous donnez 10 euros à l'un et 5 euros à l'autre, on va vous dire, ah ben vous n'êtes pas juste. Non mais ça, c'est pas la justice de Dieu. Ça, c'est ce qu'on dit, hein, c'est pas juste. En fait, c'est de l'équité, c'est être équitable. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la justice au sens biblique du terme. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a des dizaines et des dizaines de références à la justice dans l'Écriture. En hébreu, le tzedek, qui signifie droiture, vérité, innocence. Il me conduit dans les sentiers de Tzedek, c'est-à-dire il me conduit dans le sentier de la droiture. Il me conduit dans des sentiers dans lesquels je reste innocent. Ben oui, parce que ce serait bien que je ne devienne pas comme mes ennemis. Ce serait bien que je n'emploie pas les mêmes méthodes qu'eux. Il me conduit dans un sentier de droiture, de vérité. Il me conduit dans un sentier de vertu, d'innocence. C'est le tzedek dans l'hébreu. Et puis, en grec, il y a ce dikaiosune qui signifie aussi intégrité, je vous ai mis ici, vertu, pureté de vie, droiture, des pensées et des actions correctes. La justice dans la pensée biblique, c'est d'être convenablement positionné. Si vous cédez, par exemple, à la pression d'un collègue au travail et qui vous dit « on pourrait juste cacher ça au patron, s'il te plaît, parce que sinon ça va mal se passer. » Là, vous êtes devant un sentier de facilité ou un sentier de justice. Et si vous dites « ouais, bon, d'accord, allez, on dit rien, c'est bon. » Vous n'êtes pas dans le sentier de la justice. Vous ne marchez pas comme Jésus a marché. Mais si vous dites, collègue, patron, je suis désolé, je ne mentirai pas. Eh bien là, vous marchez comme Jésus a marché. C'est ça le sentier de la justice. Et il prend des aspects divers et variés dans nos vies, à tous les niveaux. Donc, la justice... Dans ces deux pensées hébreux, hébraïques et grecques, c'est en réalité la justice, c'est un état. C'est l'état de celui qui est comme Dieu veut qu'il soit. C'est d'avoir une vie, des pensées, des actions, des réactions qui soient alignées sur la pensée de Dieu, qui soient calées sur la pensée de Dieu. Et ce qui va faire que ma condition, mon état, est accepté de Dieu et que je suis approuvé de Dieu. Donc la justice, ce n'est pas une histoire d'être équitable. La justice, c'est de savoir est-ce que je suis approuvé de Dieu, oui ou non. Est-ce qu'il approuve mes pensées? Est-ce qu'il approuve mes réactions? Est-ce qu'il approuve mes paroles? Est-ce qu'il approuve mes choix, mes décisions, mes comportements? Et c'est là que du coup, je comprends que Jésus ait dit « Cherchez le royaume et là, justice, parce que si la justice c'est de donner 5 balles à mon fils et 5 balles à ma fille, excusez-moi, il n'y a pas besoin de chercher grand-chose. Chercher, pourquoi? Ben oui, parce que du coup ça va vraiment me demander de faire attention et d'aligner mon cœur et ma vie, ma façon d'être sur les principes spirituels de la parole de Dieu. C'est une façon d'être la justice, c'est une façon de se conduire, c'est une conduite qui est conforme au cœur de Dieu, conforme à sa volonté, conforme à sa nature, conforme à son caractère. C'est conforme à ce que Dieu veut, c'est-à-dire l'ensemble finalement, l'ensemble des principes qui sont exprimés dans sa parole. Aligne-toi là-dessus et tu vivras une vie juste. Ça va ? Sophonie chapitre 2, alors j'ai pas pu vous mettre les textes parce que j'ai mis juste les références, je vais vous les citer rapidement. C'est très précieux si vous voulez prendre en photo ou pour ceux qui prennent des notes. J'ai mis quand même les références pour faciliter la prise de notes. Excusez-moi, j'ai pas pu mettre tous les textes. En plus, il y en a des dizaines. J'ai mis ceux qui sont vraiment les plus pertinents. Enfin, ils sont tous pertinents, on se comprend, mais les plus impactants. Et c'est réellement important de comprendre que nous avons besoin de laisser Dieu nous conduire dans le sentier, dans les sentiers de sa justice, de chercher à être bien positionné par rapport aux principes qui sont exprimés dans la parole. Le problème, de façon générale, vous voyez, quand Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », et tout le reste vous sera donné par-dessus. L'ordre logique est clair. Le problème, c'est que ma nature humaine m'amène spontanément à chercher tout le reste, mais pas nécessairement la justice de Dieu, c'est-à-dire à m'assurer que je suis bien positionner par rapport à ce que Dieu pense et à ce que Dieu veut. Et c'est ça le problème de façon générale, c'est qu'on peut chercher une multitude de choses, et malheureusement la priorité de ma vie, c'est pas de savoir si je suis aligné sur ce que Dieu veut, sur le fil à plomb de sa parole. Et ça, mais c'est valable en tout temps, en toutes circonstances, pour n'importe quelle situation. Parce que le principe d'un principe, c'est qu'il est valable tout le temps. Le principe d'un principe, c'est qu'il est valable pour tout. Il est valable pour tous et il est valable tout le temps. Et David, ce n'est pas quand ça va bien qu'il dit « Le Seigneur va me conduire dans le sentier de sa justice ». C'est quand ça va mal qu'il dit « Le Seigneur va me conduire dans le sentier de sa justice ». Il faut que je me positionne. Alors, oui, je sais, il y a des blessures. Oui, il y a des souffrances. Oui, il y a des peines. Mais mes blessures, mes peines, mes souffrances ne me donnent pas le droit d'agir n'importe comment. Dieu ne me reconnaît pas le droit, sous prétexte de souffrance, de faire, d'agir ou de réagir n'importe comment. Et pourquoi est-il si dur, je mets des grosses guillemets? Parce qu'il sait très bien les ornières, les impasses, les précipices dans lesquels mon âme va aller se mettre toute seule. Et il sait très bien que par mes réactions, je suis capable d'envenimer les choses et que je suis capable de me mettre la double peine. Donc le Seigneur me dit, non, il faut que tu suives le chemin de la justice. De façon générale, quand nous disons que Dieu est Dieu, amen, nous avons raison, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est au-dessus de tous, qu'il contrôle tout, qu'il sait tout, qu'il voit tout, etc., etc. Oui, ce qui comprend aussi ma souffrance. Dieu reste au-dessus de mes incompréhensions. Veille, mon bien-aimé, à ce que Dieu reste au-dessus de ta souffrance et que ta souffrance ne prenne jamais la conduite de ton âme. Dieu reste au-dessus de mes souffrances, il reste au-dessus de mes blessures. Et ce sont toujours les principes de sa parole qui vont avoir la prééminence et qui vont prévaloir. Les principes de la parole ont la prééminence et ils vont se trouver au-dessus de moi, au-dessus de ce qui m'arrange, au-dessus de ce qui ne m'arrange pas, au-dessus de ce qui me fait mal. Le principe de la parole reste au-dessus de ce qui me fait peur. David, un jour, a eu peur de se faire éliminer par Saül, il a craqué. Ça ne lui donnait pas le droit de faire du compromis d'aller chez Achish. Daniel, il était déporté, il était en souffrance avec ses amis, Jérusalem était brûlée, Jérusalem était détruite, le temple était en ruine, des dizaines et des milliers de captifs sont partis, des dizaines de milliers par cortège successif à l'époque de la déportation, dont étaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et quand Daniel est arrivé dans à Babylone, ce marasme dans lequel on a voulu le corrompre, on a essayé de le consoler avec des orgies et des femmes et toute l'impudicité possible et imaginable, malgré tout ce qu'il avait perdu, Daniel a regardé Nebuchadnezzar en face, il a regardé le chef des eunuques en face, Daniel chapitre 1 verset 8, et il a dit « Non ». Je ne me souillerai pas. Et Ézéchiel chapitre 14, verset 14, dit ceci. Si un jour dans ma colère, dit Dieu, je devais exterminer un pays au point d'en éliminer les hommes et les bêtes, si un jour je devais exterminer un pays, mais que dans ce pays je trouve trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur propre justice. La question de la justice devant la Bible, frères et sœurs, est fondamentale. C'est un sentier étroit dans lequel nous n'avons que très peu de manœuvre, très peu de marge de manœuvre en vérité, mais c'est un chemin, un sentier qui est étroit et resserré, mais qui mène toujours à la vie et à la bénédiction. Et ça, c'est extrêmement important de bien comprendre ça dans la pensée de la parole. Le chemin du juste, dit Ésaïe 26, le chemin du juste, c'est la droiture. Toi, Seigneur, tu es juste, tu aplanis le sentier du juste. Tu aplanis mon sentier, parce que Dieu m'approuve. Psaume 139, David était conscient que sa nature de brebis pouvait très facilement l'amener à s'égarer. Alors c'est pour ça qu'il dit, psaume 139, verset 23, « Ô Dieu, sonde-moi, connais mon cœur, regarde, dis-moi si je suis sur une mauvaise voie. Connais mes pensées, conduis-moi sur la voie. » Proverbe 4, « Considère attentivement, dit Salomon, considère attentivement le sentier par lequel tu passes, afin que toutes tes voies soient bien réglées. » Dieu ne me menace pas, hein. Il veut me bénir. Il ne veut pas que je me perde. Proverbe 16, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, homme c'est au sens d'être humain, ça marche aussi pour vous mes sœurs, hein, ça va. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, le texte dit bien, quand l'Éternel approuve, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice, dit le sage, dit Salomon, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Tout ça, frères et sœurs, me parle en réalité de mon combat, de ma priorité. La priorité, après avoir goûté à la table du berger, ma priorité, ma préoccupation première, c'est de me positionner dans les principes spirituels du royaume et de faire très attention à la lumière de la parole, de bien choisir le sentier dans lequel je vais me comporter. Est-ce que je vais choisir la vérité ou la dissimulation ? Parce qu'avec Dieu, vous savez, une cachotterie, ça s'appelle un mensonge. C'est pareil pour lui. Dieu ne fait pas dans la demi-mesure. Est-ce que je vais me positionner sur un terrain de pardon ? Ou est-ce que je vais rester sur un terrain de rancune ? Est-ce que je me positionne à la table de la grâce ? Ou est-ce que je m'assois, je m'installe à la table du jugement ? Qu'est-ce que je choisis ? La douceur ? Ou finalement... Vive l'amertume, on va continuer comme ça. Est-ce que je m'installe à la table de la vengeance, d'une langue critique, ou est-ce que je m'installe à la table, ou le sentier, hein, c'est des images différentes, mais où est-ce que je vais prendre le sentier de la langue douce, de la confiance en Dieu, en disant à toi Seigneur et à toi seul, appartient à la vengeance et la rétribution. Donc moi, je vais rester à tes pieds. Et ce sont en réalité, frères et sœurs, c'est pour ça que la question de la justice est fondamentale. Parce que ce sont dans toutes les situations de nos vies, des occasions de bien nous positionner et de voir la main de Dieu derrière dans ce qu'il veut faire. Et vous vous rendez compte à la lumière du peu que je viens de vous dire qu'en réalité, mais oui, il existe une multitude de chemins. Il existe une multitude de chemins, de sentiers, de boulevards, d'autoroutes qui peuvent être des pièges. Parce que il paraît que tous les chemins mènent à Rome. Je n'ai pas vérifié, c'est peut-être vrai. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans le domaine spirituel, tous les chemins ne mènent pas à la restauration. Dans le domaine spirituel, tous les chemins ne mènent pas à la guérison et à la bénédiction. Il me conduit dans les sentiers de la justice, pourvu que je me laisse conduire, parce que David sait qu'il peut très vite s'égarer. Alors c'est pour ça que d'abord, il se met à table avec le berger, pas seulement pour se nourrir, pas seulement pour se désaltérer, pas seulement pour se fortifier, pas seulement en face de ses adversaires, pas seulement pour m'éviter de foncer tête baissée, mais aussi parce qu'à table... Dans l'Antiquité, La table servait aussi pour établir une stratégie. Même au XXe siècle, on faisait ça. À l'époque où on n'avait pas de GPS, on n'était pas plus bêtes. On n'avait pas la voix qui nous disait « À 200 mètres, tournez à gauche. » Il n'y avait pas de GPS. Une fois qu'on avait fini de manger, on enlevait, on s'était nourri, désaltéré, on avait repris des forces, on était bien. Et ensuite, on enlevait tout ça. Et la table, elle a une autre fonction, autant dans l'Antiquité que même pas loin de nous au XXe siècle. La table, elle a une autre fonction, c'est-à-dire qu'on sort le plan. La parole de Dieu, c'est le plan. On sort la carte. Et puis on se dit, ok, nous on est là, mais on veut aller dans ce pays-là. On veut aller là. Alors c'est quoi la destination? On va où demain? Eh bien, demain, on va dans le pays ici. Là, on va dans le pays des verts pâturages. Là, il y a des eaux paisibles. Là, nos cœurs sont tous guéris. Là, nos âmes sont toutes restaurées. Là, il y a une qualité de vie. Alors, les petites collines verdoyantes, les eaux qui coulent, le petit ruisseau dans mon âme, c'est encore même encore plus beau que la Suisse en été. Il faut vraiment qu'on aille dans ce pays-là. Là, c'est le pays d'un avenir sûr et heureux, garanti par Dieu. Et Dieu, il ne m'attend pas là. Dieu, il m'a dit, je t'attends là. Et c'est à toi d'y aller. Alors, je vais tracer mon plan. Je vais faire mon itinéraire, comme au XXe siècle. Et au XXe siècle, une fois que je sais que je suis là et que je veux aller là, je regarde comment je peux aller. Alors, si je prends ici... Oh, qu'est-ce que t'en penses, Seigneur? Ça, c'est quand même bien, ça. Oh là là, ça, c'est large, c'est beau, c'est spacieux. Ah ben, c'est une autoroute. Ah oui, c'est l'autoroute. L'autoroute de Marat. C'est quoi ça? L'autoroute de Marat. Ah, l'autoroute de l'amertume. Ah là là. Non, 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 Steph, prends pas ça. Non, Steph, tu prends pas ça. Parce que regarde... Ésaü a déjà pris cette autoroute, il n'en est jamais revenu. Anne, à une période de sa vie, elle l'a prise aussi. Mais tu vois, heureusement, là, il y a une sortie, elle en est sortie tout de suite, elle a invoqué Dieu. Regarde, non, 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 prends pas Mara, regarde. Naomi a pris ce chemin, elle a failli ne jamais s'en remettre. Ne prends pas l'autoroute de Mara, pas d'amertume. Heureusement que Ruth et Boaz étaient là et qu'ils l'en ont sorti. Et regarde, je dis, mais c'est vrai. Et le peuple, et les amis de David à Tsiklag. Oh, je dis, c'est une autoroute, mais il y a du monde là-dessus, il y a tellement de monde, ça circule pas bien. Non, non, non. Allez, on prend pas l'autoroute. Je cherche autre chose. Qu'est-ce qu'on va prendre? Les autoroutes, c'est trop un piège. On va chercher quelque chose d'un peu plus restreint. Ah, ben ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en dis, Seigneur? Avenue Ifek. Qu'est-ce que c'est, Ifek? Ifek. Ah, irritation, fureur, envie, colère. Ah! C'est l'avenue du psaume 37. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne porte pas envie aux insensés. C'est l'avenue du psaume 37. Le Seigneur me dit, non, ne prends pas cette avenue-là, parce que cette avenue-là, non, non, laisse tomber, il y a trop de monde, ça circule pas, c'est toujours bouché. Puis en plus, on n'en voit jamais le bout, la route n'est pas finie, il y a un précipice au fond. Non, là, si tu un jour tu es sur cette route, Steph, si tu es sur l'avenue Ifek, dès que tu peux, tu prends la première à droite qui s'appelle « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, puis tu vas voir s'il ne va pas agir. » Puis après, tu prends la première à gauche qui s'appelle « Tu vas apprendre à faire de l'Éternel tes délices, puis tu vas voir qu'il va te donner ce dont ton cœur a besoin. » Bon, ok, alors Seigneur, je ne prends pas l'avenue Ifek, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Alors, vous êtes content d'être venu ce matin, hein? C'est bien, hein? Je vous ferai pas ça tous les dimanches. Hein. Alors, je peux prendre le boulevard. Ah oui, ah ben voilà. Ben Seigneur, alors pas d'autoroute, ok, pas d'avenue. Seigneur, regarde, ça, c'est bien. Puis là, ça va vraiment dans le bon sens. Regarde, Seigneur, le boulevard CIT. CIT, qu'est-ce que c'est ça? Comparaison, ah oui, le boulevard comparaison, incompréhension, tiraillement. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le boulevard du psaume 73, c'est Asaph. Eh ben non, non Steph, il faut pas que tu prennes ça. Parce que le Asaph, non, non, Asaph, il a pris... Qu'est-ce qui a marqué là? Comment ça se fait qu'il y a des inconvertis qui n'ont pas les mêmes problèmes que moi? À quoi ça sert que je sois devenu chrétien si c'est pour avoir autant de problèmes ? Non, non, Steph, prends pas ce boulevard, surtout pas, parce que il faut en sortir très vite, parce que derrière, il y a l'abandon, et là, derrière, tu perds tout. Donc, non, non, là, tu prends la première à gauche, la sortie du boulevard CIT, c'est revenir à la présence de Dieu, m'approcher de Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Merci, Azaf, donc je vais pas prendre le boulevard CIT. Bon, on va y voir dans les petites nationales, il y a peut-être un truc à faire. C'est plus facile à pratiquer. Ah, là, il y a la nationale. Qui... Non, Steph, prends pas ça. Regarde, c'est marqué. Nationale de la victimisation et de l'enfermement. Eh ben non, cette nationale, c'est Élie. Voilà. Ah oui, c'est la nationale d'Élie. L-I-E-L-I-E. Voilà, pas avec le E, le prophète. Ah, eh non, non, faut pas que tu prennes le boulevard de la victimisation et de l'enfermement. Oui, tu te souviens ah oui, regarde là, regarde où ça l'a amené. Ah, j'ai déployé mon zèle, je suis resté moi seul, ils m'ont abandonné, ah, personne ne me comprend, ah, Seigneur, prends-moi. Mais tu vois, cette nationale, derrière, il y a une impasse, et c'est une voie sans issue. Donc, et là, c'est une caverne. Bon, ben, si tu vas là-dedans, t'as pas le choix. Soit tu sors, soit tu meurs. Donc, non, prends pas ça, c'est pas la peine. On va essayer une départementale, ça va, vous avez le temps, hein, je suis là jusqu'à 15h. Ben, il faut qu'on trouve le chemin, hein. On est d'accord ? Il faut trouver l'itinéraire, il n'y a pas de GPS. Départementale. Ah, oulala, j'en ai une belle aussi. Elle passe, elle contourne un peu plus par là. Elle est sympa, celle-là aussi. Ah, c'est la départementale de Jérémie. Oh là là. Enfin, Jérémie, pas le nôtre. Hein. Lui, il n'a pas de E. Jérémie de la Bible avec un E. Hein. C'est la départementale de Jérémie. D'accord. Et ça correspond à quoi ? Ah oui, il y a deux voies derrière. Départementale de Jérémie qui donne sur la départementale de l'abattement. Et la départementale du négativisme. Ah oui, et ça tourne, il est en boucle, il va ressasser toujours les mêmes choses. Eh oui, ah oui, quand je pense à ma misère, quand je pense au poison, je pense à l'absinthe, quand je pense à ma détresse, mon âme est abattue. Ah non, mais c'est pas la peine, bon, on s'en sortira pas. Donc, par contre, Jérémie, il avait pris cette voie, mais lui, il a pris tout de suite à droite, et il a dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. Et de ce fait, il s'en est sorti comment ? En tout recentrant sur Dieu. Ah, ça c'est intéressant. Mais par contre, si vous êtes sur la départementale de Jérémie, il faut en sortir vite. Mais si vous pouvez, ne la prenez pas, vous gagnerez du temps. Après, sinon, qu'est-ce qu'il y a là ? Ah ben c'est bien ça aussi. C'est... Ah ben non, ça c'est un périphérique. Ah oui, non. Ah oui, qu'est-ce que c'est marqué ? Périphérique du regret. Tiens, c'est pas mal ça. Ou périphérique de Josué. Ah oui, d'accord. Ah oui, je sais. Ben oui, regarde, Steph, regarde. Josué, il a pris la rue de « Je suis capable », ça l'a conduit dans la rue de l'échec et il s'est retrouvé sur le périphérique du regret. Ah, si j'avais pas passé le Jourdain. Ah, si on n'avait pas fait ci. Ah, si j'avais pas fait ça. Ah, si j'avais écouté Dieu. Ah, si j'avais consulté Dieu. Ah, si j'avais. C'est le périphérique du regret. Le problème, c'est qu'on s'en sort pas. Ah si, il y a une petite, pour les gens qui sont sur le périphérique du regret, il y a une petite, toute petite sortie ici, c'est marrant parce qu'il n'y en a qu'une, et qui s'appelle « Si tu consultais Dieu plus souvent, tu aurais moins de problèmes ». Bon, j'en sais rien. Je t'écris, moi j'en sais rien. Des fois, j'ai ma version de la Bible à moi. Hein. Bon, et non, la solution c'est ça, regarde Steph. Il faut que tu prennes le chemin du pardon, le chemin de ma présence. Ah, tu vas aussi avoir à un moment, pour relier ces deux petits chemins, tu vas avoir le sentier de la repentance. Puis après, tu as un chemin de renoncement, de droiture, de silence, de vérité, de confiance en moi. Tu arrives au vert pâturage, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Voyez, frères et sœurs, tous ces chemins en vérité, je termine avec ça, tous ces chemins tordus dont je vous ai parlé, qui sont des boulevards, des autoroutes, qui semblent tellement faciles. Votre âme n'a rien à faire. Vous n'avez rien à faire pour aller dans ces boulevards-là. Votre âme, elle y va toute seule. Parce que le propre d'une brebis, c'est que, un, je vous l'ai dit, elle ne peut pas se remettre sur pied toute seule. Deuxièmement, l'autre caractéristique d'une brebis, c'est qu'elle est incapable de se diriger toute seule. Et que spontanément, elle va toujours aller vers la facilité. Mon âme y va toute seule, c'est si facile, mais c'est tellement dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a Et dans les temps qui viennent, on prendra le temps d'étudier des personnages, d'étudier des situations. Il y a des faux chemins de restauration, mais il y a aussi de vrais chemins, de vrais sentiers de restauration. Il faut les identifier, il faut en être conscient. Il faut savoir discipliner notre âme pour ne pas aller sur des boulevards ou des autoroutes qui vont nous perdre, mais pour pouvoir plutôt aller sur des sentiers. Jésus a été clair. C'est pas seulement pour le jour du salut. J'ai mis devant toi deux chemins. Celui de la mort et celui de la vie. Jésus dit bien, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Et c'est pas seulement pour le salut, parce que le chemin étroit et resserré qui mène à la vie, c'est encore une fois la Zoé, c'est le chemin de la qualité de vie de Dieu dans ton cœur, dans ton âme. Alors oui, il y aura plusieurs sentiers. Oui, ils seront étroits. Mais pour ne pas te perdre, il va falloir absolument que tu consultes attentivement et que tu consultes sérieusement le plan que Dieu te donne pour te laisser conduire dans les sentiers de la justice. Oui, le sentier, par définition, il est étroit. Oui, par définition, le sentier, il est difficile. On ne va pas se mentir. Oui, par définition, sur un sentier, ta marge de manœuvre est extrêmement réduite, pour ne pas dire inexistante. Parce que tu fais ce que Dieu te dit. Mais si tu t'engages réellement sur ce sentier, sur les sentiers, il a bien dit David, les sentiers. Si tu t'engages sur les sentiers de la justice, tu sais que c'est le chemin de la guérison. Tu sais que c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la victoire et de la bénédiction. Amen. On se recueille.